הוא סידר אותם. שמר מינה מצוות צריכות כוונה. רש"י סיט לאקספרסיון דה למשנה, לפרמייר אקספרסיון, כיצרשי דלוסים. שמר מינה מצוות צריכות כוונה. שיהיה מתכוון לצאת, סליחה, שיהיה מתכוון לשם מצווה. Cette intention qui lui est demandée, c'est qu'il ait l'intention d'accomplir une mitzvah. Vetikshel et Rabba, et ceci sera une objection contre l'enseignement de Rabba, de Amar et Maseret Rosh Hashanah, qui a enseigné dans le traité qui s'occupe des mitzvot de Rosh Hashanah, Atokear Leshir Yatsa. Vous voyez, l'expression vous est donnée entre guillemets, Atokear Leshir Yatsa. Celui qui sonne du chauffard pour faire de la musique, Shir Yatsa. Il a accompli son devoir. J'ouvre une petite parenthèse pour expliquer quel est le cas. Et vous voyez comment c'est une illustration de ce débat. Est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana ou pas? Le jour de Rosh Hashanah, la Torah nous a demandé, comme mitzvah, de sonner le chauffard. Il y a donc une première question. Où est la mitzvah? Sonner le chauffard ou entendre le chauffard? Finalement, la halakha est que l'obligation est d'entendre le chauffard. Pour entendre le chauffard, il faut bien sûr que quelqu'un... Et alors, si quelqu'un a pris un chauffard le jour de Rosh Hashanah et a sonné comme on joue de la trompette, les chires, pour faire de la musique, yatsa, il est quitte de ce que la Torah a demandé puisqu'il a entendu le son du chauffard. Ça, c'est l'opinion de Rabba à propos du chauffard le jour de Rosh Hashanah. Et quelle est sa thèse? Que les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. C'est pas pour accomplir une mitzvah qu'il a sonné le chauffard, c'est pour jouer. Eh bien, il est yotzé puisqu'il a accompli ce que la Torah a demandé d'autre part, même s'il n'avait pas l'intention d'obéir à la Torah. C'est clair? Or ici, notre Mishnah pour le Kriyat Shema nous dit que s'il met Kavana, il est yotzé, ça contredit la thèse de Rabba. C'est clair? Je reprends donc Rashi. Qu'est-ce qu'a voulu dire notre Gemara ici en disant Shema Mina Mitzvot Srikot Kavana? De cette Mishnah, nous apprenons que les mitzvot ont besoin de Kavana. Il s'agit de la Kavana Leshem Mitzvah, d'agir en tant que l'on obéit à une mitzvah, et ceci s'oppose à la thèse de Rabba, qui dans la Maseret Rosh Hashanah a dit « Atokear Leshir Yatsa ». C'est clair jusque-là? Continuons dans la Gemara. « Maïm qui vient de Libo », toujours dans la même lecture. Objection, qu'est-ce que ça veut dire? Et s'il a mis l'intention du cœur, pas comme tu viens de nous dire, toi, à travers Rashi, l'intention d'accomplir une mitzvah. Non, l'intention de lire. Alors, explication de Rashi sur cette expression, qui vient d'Ikrot, avar l'etze qui est des mitzvah, l'obainan chez mitkaven. Il s'agit de l'intention de lire, mais l'intention d'accomplir une mitzvah, ça on ne lui demande pas, cette intention-là. C'est clair? Vous voyez bien qu'il s'agit d'une objection contre la première proposition. Elle a l'Ikrot batora be'alma, mais de lire dans la Torah comme on lit, pour lire et pour transformer l'écriture en lecture. C'est clair? Réobjection de la Gemara, Ikrot, comment tu peux me dire que c'est l'intention de lire? Veha kakare, mais il lisait, puisque la Mishnah dit Haya kore va Torah. Explication de Rashi sur cette expression, ha pe kore ka asik. On s'occupe du cas de quelqu'un qui lit. Tana Beati, c'est-à-dire l'enseignant de la Mishnah s'occupe de quelqu'un qui lit, de cela dont il parle. Des Katané, puisqu'il est écrit dans la Mishnah, Haya Kore Batora, il lisait dans la Torah, on entend le mot Kore. Réponse de la Gemara, non, en réalité la Mishnah parle d'un cas très précis, Bakore le Agia, celui qui lit pour corriger, pour vérifier si le texte est bien écrit comme il doit être écrit. Et là, j'avance déjà un peu dans l'explication. Et Rashi, Léagia est à se faire corriger, vérifier le livre Imiejbo Tarut, pour savoir s'il y a des fautes. De Afilou le cri Aname, l'ami de Kaven. Et dans ce cas-là, il n'a pas du tout l'intention de lire. Il est occupé à un tout autre acte, épeler des lettres pour vérifier avec le modèle. Est-ce que c'est clair? Voyez donc comment Rashi nous aide à comprendre. Quelle est en tout cas l'expression corrélée à Bia, le sens de cette expression? Qu'est-ce que ça veut dire être lire sans lire? C'est épeler un texte pour vérifier s'il est bien écrit comme il doit être écrit. Notez déjà une formule que, par laquelle je vais anticiper sur l'explication que je vous proposerai, au fond, est-ce que c'est pas ça l'attitude, jusqu'à la fin des temps, du peuple juif occupé à lire la Torah? Il croit qu'il lit, mais il vérifie si son texte est exact. Là, je suis allé très loin d'un coup. Est-ce que c'est clair? Non, pas compris? D'une certaine manière, nous sommes porteurs d'un livre où il y a la révélation du Créateur du monde pour l'histoire des hommes. Et puis nous disons que nous lisons. Peut-être qu'il y en a qui lisent, mais c'est le plus petit nombre. Le plus grand nombre porte un livre, et lorsqu'il dit qu'il lit, qu'il étudie, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il vérifie si le texte est exact. Mais est-ce qu'il a lu ce qu'il y a dedans? Et j'entends bien que je suis très paradoxalement, très dur dans l'explication, a priori, ça va se récupérer. Et peut-être que déjà vous présentez l'ordre de la réponse pour élucider la Mishnah. Si pendant qu'il était occupé de vérifier son texte, son intention était de lire, alors il sera quitte au moment où, lorsque le temps de lire arriveront, il lira avec ceux qui lisent, en disant Amen. Et vous voyez de quel ordre de mérite et de vertu il s'agit. Je sais que je ne sais pas lire, mais voilà, il faut bien que je lise. Alors je lis à ma manière, c'est-à-dire Korel et Agia. Et c'est le plus grand nombre. Je suis le... Attendez, je cherche un terme en français. Je suis le gardien fidèle du livre. Et à travers tout le temps de mon histoire, je vérifie et je copie en vérifiant et je recopie de telle sorte que ce livre reste comme il est. Et vous allez me dire quel ordre de vertu, c'est ça? Une vertu colossale. C'est le fait que le peuple juif a traversé l'histoire avec son livre intact. Et puis certains lisent. Mais vous voyez l'infinité niveau de niveau qu'il y a au niveau du sens du mot lire. Mais en réalité, le plus grand nombre est occupé à cette vertu qui s'appelle Melechet Shamaim, à propos de Rabbi Meir, qui était sofer, qui consiste à retransmettre et recopier et retransmettre le texte de telle sorte qu'il soit exact, et par conséquent être occupé à vérifier s'il n'y a pas de faute et si chaque lettre est à sa place. Alors celui qui était en train de lire dans la Torah, comme le plus grand nombre lit, en épelant les lettres, et arrive le temps de la lecture, un jour il faudra bien dire ce qu'il y a dans ce livre, alors il est yotzé si dans son épellation, il avait mis l'intention de lire un jour. Est-ce que c'est clair? Alors vous voyez bien que c'est pas lisible comme cela. Mais ça nous aide déjà à comprendre la densité de la préoccupation de la Mishnah, et surtout de la dialectique de ces deux lignes, une ligne et demie de Gemara sur la Mishnah. De quoi s'agit-il? D'une dialectique. Est-ce qu'il lisait? Alors s'il lisait, ce qu'on va lui demander, c'est l'intention d'accomplir un devoir. Il ne suffit pas de lire. Il faut proclamer, et en se sentant chargé de mission, de proclamer ce qu'il y a dit dans le texte. Maintenant, il s'agit pour le plus grand nombre de celui qui lit sans lire. Et qu'est-ce que ça veut dire lire sans lire? Première explication de Rashi, c'est vérifier si le texte est écrit comme il doit être écrit. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors on avance. Nous allons voir l'explication de Tosfot sur ce Rashi, un deuxième système de comprendre l'expression à Korel et Agia. Et il y en a une troisième qui est celle de Rabbeinu Nissim, le Ran, qui n'est pas dans vos textes mais que je vous citerai de mémoire. Et les trois vont dans le même sens pour nous dévoiler de quoi s'agit-il dans cette occupation de celui que désigne la Mishnah. Haya Korel va Torah. Et voilà que pendant qu'il se préparait à lire, entendez bien que j'ai ajouté un nouveau mot, se préparait à lire, arrive le temps de lire. Alors s'il avait mis l'intention de lire, et c'est pour ça qu'il se prépare à lire, et pas se préparer à se préparer, alors il est yotzé avec ce qu'il lise. Est-ce que c'est suffisamment? Alors Tosfot, vous avez Tosfot ici, juste en dessous de Rashi. Tout le monde sait qui sont les Tosafot. Oui, ce sont les disciples de Rashi qui ont donné des précisions, des gloses, comme on dit, sur le commentaire de leur maître, qui est le commentaire de Rashi. Va Korel et Agia. Vous suivez tous? Vous l'avez en écriture carrée, ok? Pyrrhas par contraste. Ça veut dire que le maître a enseigné dans son carnet de notes, contraste c'est le carnet de notes, chez En Mitkaven Likrot, qu'il s'agit du cas de quelqu'un qui n'avait pas l'intention de lire. Il avait l'intention d'un tout autre acte, vérifier le texte. Vous rappelez Rachid? Théma, c'est étonnant. Il faut s'étonner de cette explication de Rachid. Arti, hakakare, la Gemara elle-même a objecté, mais il lisait. Vous comprenez? Si, il faut comprendre, nous disent Tosfot, le Koré le Agia, lire pour vérifier, de telle sorte que c'était lire quand même, parce que c'est lire pour vérifier. Alors que Rashi nous a dit, lire, il lisait pas, il vérifiait. Est-ce que c'est clair? Nous avons là une controverse entre Tosfot et Rashi. On ne peut arrêter l'étude que si on a compris qu'il n'y a pas de controverse. Mais que Tosfot vient renforcer, préciser, la manière dont on doit lire Rashi. Si on lit Rashi de façon approximative comme on vient de le faire, il y aurait controverse. Mais Tosfot veut nous faire nous étonner sur une lecture de Rashi qui n'est pas l'écriture de Rashi. Parce que Rashi ne peut pas être contradictoire à la Gemara. C'est clair? Théma, il faut s'étonner de la manière dont Rashi est formulé. Arti, hakakare, puisqu'on est dans un cas où il lit, il a écrit ayakore. Et quand la Gemara a expliqué ce Koré, c'est Koré le Agia, c'est Koré quand même. C'est clair? Al-Keninira, c'est pourquoi il nous apparaît, disent les élèves de Rashi, que Koré le Agia, Be Koré le Agia, qu'est-ce que ça veut dire Koré le Agia? Chez nous, Koré a tevot qu'il khatam. C'est qu'il ne lit pas les mots comme on doit les lire en tant que mots. Uknekudatam, et avec leur voyelle. Et là, kirtibatam. Mais comme ils sont écrits. Vous voyez quel est le principe? Vous voyez, tout a rebondi. Quel est le principe de l'explication de Tosfot? C'est le principe du criktiv. Il ne lit pas dans l'ordre du mikra, mais dans l'ordre du ktiv, dans l'ordre de la ktiva. Il ne lit pas ce qu'il faut lire, il lit ce qu'il y a d'écrit. Mais il lit. Je vais vous donner un exemple un peu farfelu, pour vous montrer à quel point les choses sont très profondes. Comment c'est écrit dans le Sefer Torah depuis le début? Depuis le début du premier verset. C'est écrit sans les voyelles. Et c'est écrit que des lettres, avec un agencement que la tradition nous a laissé. Et nous avons une lecture de ce qu'il y a d'écrit. Alors il ne lit pas cette lecture. Il lit l'écriture. Il ne lit pas Bereshit. Il lit Barshat. Parce qu'il ne connaît pas les voyelles. Il ne connaît pas les voyelles. Dans le texte, il n'y a pas les voyelles. Il ne lit pas Bereshit Bara. Il lit Beroshit Bara. Il lit ce qu'il y a d'écrit. Il ne lit pas le Mikra, la lecture de cette écriture. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que le système de Tosfot est très différent de celui de Rashi, mais finalement, il revient au même. Comment? Parce que, qu'est-ce que nous avait dit Rashi? Reprenez Rashi. Le Agia est assez fer im yesh bo ta'out. Première approximation du sens de Le Agia. Il vérifie son texte de telle sorte de voir s'il n'y a pas de faute. Okay? Et alors, Tosfot nous ajoute quelque chose. Et en vérifiant son texte pour voir s'il n'y a pas de faute, il est en train de lire comme c'est écrit, pas forcément comme on dit. C'est clair? Mais la controverse reste à un niveau encore plus profond. Rashi a dit Beferouj. Explicitement, il n'avait pas l'intention de lire. Alors il faut comprendre à l'aide de Tosfot. Il n'avait pas l'intention de lire la lecture, mais il avait l'intention de lire l'écriture. C'est ça la préparation. Okay? Vous avez compris? Alors je continue. Dans Tosfot, qui nous élargit encore, et là, Kertivatan, il ne lisait pas comme la lecture, mais comme leur écriture, Kedelehavin bahaserot ou bieterot, de telle sorte de comprendre. Le cas où un mot manque d'une lettre, on l'appelle haser, il manque d'une lettre dans l'écriture, ou beyeterot, dans le cas où dans un mot il y a une lettre de trop dans l'écriture. Que mot, les totafot, ou mezuzot. Totafot, regardez bien dans le texte, totafot est écrit sans vave. Mezuzot est écrit sans vave. C'est ce qu'on appelle un haser, il manque une lettre. Dans l'écriture, il n'y a pas le vave, mais dans la lecture, on ajoute le vave. Nous avons donc deux Torah au minimum. La Torah telle qu'elle est écrite, avec son sens. Et la Torah, telle que nous la lisons, avec son sens. Alors, le commandement était de lire la lecture. Mais voilà qu'il lisait l'écriture. Et c'est ça qui s'appelle préparation à la lecture. Et pendant qu'il lisait l'écriture, arrive le temps de la lecture. Alors, s'il avait mis l'intention de la lecture au moment de la lecture de l'écriture, il est yotzé de la lecture de la lecture. Maintenant, c'est clair. Puisque j'ai mis le français en hébreu, alors ça devient clair. Et donc, reprenons notre cas très général, encore une fois. Ça veut dire, ce peuple juif, qui est dans la position du sofer, de celui qui copie le Sefer Torah, et dont toute la vertu est de transmettre jusqu'à la fin des temps, autant il faudra lire, le texte qu'il faut lire. C'est ce mérite incommensurable de la fidélité du peuple juif à lui-même, attendant le temps du redévoilement. Et si au temps du redévoilement, il n'y avait pas un peuple juif avec son Sefer Torah, le monde serait privé du véhicule de dévoilement. Donc ce n'est pas un mince mérite. C'est clair ? On retrouve un peu l'enseignement du Rabbi de Mezrich. C'est pas qu'on fait semblant de lire. On préserve la chance de pouvoir lire un jour. Lorsque le temps sera venu, je ne dirai pas plus. Okay ? Alors celui qui s'était préparé à lire, avec l'intention de lire quand il faudra lire, aura le mérite d'avoir lu. Est-ce que c'est clair ? Bon. Et peut-être qu'encore une fois, cette ferveur qui consiste à avoir lu sans lire, d'une certaine manière, est plus grande que celle de celui qui lit, en comprenant ce qu'il lit, avec la pointe d'humour de la chassidoute, et est-ce que tu crois que tu comprends ? Est-ce que c'est clair ? C'est pourquoi je vous disais hier, sur cette règle précise de la halakha, en prenant le cas de la prière en général, non pas le cas de l'étude, mais le cas de la prière en général. Quelqu'un lit son Shmoné Esré, et puis il ne comprend pas l'hébreu. Et alors, et il le lit en hébreu. Bien, le mérite est plus grand que s'il le lisait en français. Parce que là, en français, il peut croire qu'il comprend. Mais en hébreu, c'est évident. À condition que la lecture soit exacte. Et c'est là que la profondeur de cette vertu apparaît. Parce que nous sommes à l'intérieur de la cohérence biblique. Qu'est-ce que fait l'homme qui prie ? Il est devant Dieu parce qu'il a une âme. Lui ne comprend pas l'hébreu des hébreux. Mais son âme est hébreu et comprend. Et comprend l'hébreu. Et alors lui, eh ben, il a le devoir d'apprendre l'hébreu.
Comment vous écrivez
l'âme
en hébreu ?
L'âme, neshama. À quel mot vous auriez pensé ?
Irida,
c'est le plus haut niveau de la Neshama. Non, mais c'est déjà au niveau Neshama. Si vous connaissez les cinq niveaux, c'est-à-dire Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Irida, c'est au niveau Neshama. Que c'est là que la Da'at commence à apparaître. Okay. Et voilà donc pour la première explication, vous voyez ? Il y a l'explication de Rashi, vérifier s'il n'y a pas de faute. Mais pour vérifier s'il n'y a pas de faute, je ne me bande pas du Tosfot à épeler lettre pour lettre, mais à lire les mots comme ils sont écrits, et non pas forcément comme ils sont lus, de telle sorte, regardez le mot qu'a employé Tosfot, qu'est le Havin, de comprendre le sens de l'écriture, opposé à le sens de la lettre. Comprendre de la lettre. Alors, nous allons avancer un peu dans la Gomara, ce qui nous permettra de revenir ici à la discussion de la lecture même, comment fallait-il lire, proposition, objection. Quelle est, une minute, quelle est la lecture de la Gomara de Haya Koré Batora ? C'est Koré le Agia, lire pour corriger, à la manière de Rashi ou de Tosfos. Donc, la Kavana, selon la Gomara, la Kavana que la Mishnah a demandé, c'est la Kavana de la lecture. Par conséquent, nous ne pouvons plus lire la proposition mitzvot, trichot, kavana, d'être yotze. Est-ce que c'est clair comme raisonnement ? Okay. Et ça s'oppose à la manière dont j'ai lu tout à l'heure. Dès qu'on a compris la conclusion, alors la prémisse était fausse. Ça, je reviendrai là-dessus peut-être déjà aujourd'hui, sinon demain. Qu'est-ce que tu veux ?
Mais selon cette explication, comment est-ce qu'on peut comprendre le texte ? Si on essaie de comprendre le texte, pas d'une façon symbolique. Ça voudrait dire que lorsqu'un sofer, il lit le schéma sans quand même lire avec les nécoudotes qu'on t'a transmis à ma sorelle.
Ça a l'impression.
Il est quand même mieux de ses deux idées pour atout.
Si il a mis l'intention des plaies en vue de lire. Et voilà.
Même tu l'as dit, il n'a pas dit ah, putain, mais il a dit.
Non, je précise le cas. Je précise le cas, c'est ceci. Voilà que dans son travail, le sophère est arrivé à la paracha de Kriyat Shema, et il le sait quelques instants avant le temps d'avoir lu Kriyat Shema. Il continue son travail. Mais en se disant, cette paracha-là, je la corrige, je la vérifie, mais en vue de la lire. Alors si c'est comme cela, s'il l'a lu sans lire, en vue de la lire, il est yotzé dans sa lecture qui n'était pas encore lue. Voilà ce qu'a dit la Mishnah. Mais nous allons élargir tout cela. Ken ?
En vue de la lire, même si c'est pas lui qui devrait la lire, qui est Dieu.
Non, mais comme on attend le Messie à chaque instant,
c'est ça, donc en vue de la lire,
on veut la lire dès que le Messie sera là. Enfin, c'est moi qui anticipe dans l'explication en disant « Zmanamikra », c'est quand ? Comme les élèves ont dit à leur maître au temps de la Haggadah de Pessah, « Igiyar zman kriyat shma shel shachrit » ce kriyat shma-là. Toute la Mishnah, on n'a pas lu la suite de la Mishnah, mais parle du kriyat shma de shachrit. Quand arrivera le temps de la proclamation du kriyat shma de la fin des temps, il faudra lire. Alors on se prépare à lire. Alors si c'est préparé en vue de lire, il est yotzé par sa préparation. C'est clair ? Regardez, on a sauvé tout le peuple juif d'un coup. Vous avez remarqué ?
Pourquoi ce style mystérieux alors ?
Parce que.
Tu dis la Mishnah avec d'autres rabbins
du
classique, disons, il
n'explique
pas du tout le sens caché.
Donc il faut changer le mot classique.
Clairement.
Oui. Si vous avez compris, quand vous arrivez à comprendre clairement, vous verrez qu'on ne peut pas l'écrire autrement. Je me rappelle une fois, il y a très très longtemps, on étudiait dans un limoud, et pendant des heures, nous avons étudié quatre lignes. À la fin, un élève a demandé, mais comment il faudrait écrire tout ce qu'on a appris pendant toute la nuit ? Uniquement en écrivant ces quatre lignes, on ne peut pas autrement. C'est la raison pour laquelle la Torah orale reste orale. Tout ça, ça ne peut pas se mettre par écrit, vous avez compris. Je pense que c'est clair. C'est-à-dire, c'est comme ça que les choses doivent être dites pour qu'on comprenne ce qu'elles ont voulu dire. Mais non, ceci dit, il y a une intention de clandestinité. Il y a une intention de clandestinité, c'est clair. Mais il y a une coïncidence entre la forme exacte de la vérité et son apparence clandestine. Une intention de clandestinité qui avait deux objets. Lorsqu'on s'est aperçu, ce que les non-juifs avaient fait de la Torah écrite lorsqu'ils l'ont traduite, alors on a décidé qu'ils ne feraient pas ça avec la Torah orale. Et quand on a été obligé de la mettre par écrit, on l'a mise par écrit de telle sorte que ou on comprend ou on ne comprend pas. En général, ils ne comprennent pas. En particulier aussi. Vous savez que quand les Septante, la fameuse traduction des Septante, qui ensuite est devenue la Vulgate de Vulgate, ont traduit le Sefer Torah en grec puis en latin, vous savez ce qu'en est résulté dans le monde. Là, la plus grande des idolâtries qui s'appelle le christianisme, au nom de la Bible. Et alors, lorsque les Hachamim ont vu ce que la lecture de notre écriture fait chez les autres, alors ils ont dit en tout cas ça, avec l'écriture de la lecture, ils ne le font pas. Et alors lorsqu'on a été obligé de mettre déjà la Mishnah par écrit, puis la Gemara, alors le style de l'inspiration du Roi HaKodesh a été un style de clandestinité. De telle sorte qu'on ne risque pas qu'on nous dénature, manipule ce texte. Ne comprendront que ceux qui comprennent. La deuxième raison, elle est encore plus, peut-être plus difficile à expliquer, c'était pas vis-à-vis des non-juifs, mais vis-à-vis des juifs eux-mêmes. Que seuls ceux qui ont la tradition de lecture oralement, de bouche à bouche, comme on dit en hébreu, pas de bouche à oreille, PLP, et pas PLAOZ, de bouche à bouche, savent lire ce qui est écrit. De telle sorte que, ne comprennent que celui qui peut comprendre. Au bout de 2000 ans, si vous voulez, le résultat est assez catastrophique. Et c'est ce que tu as appelé les rabbins classiques.
Est-ce qu'ils jouent le jeu ou vraiment ils sont sincèrement, ils comprennent rien ?
Alors c'est leur problème, c'est pas le mien. Et d'ailleurs, je te conseille pas de leur poser la question, parce que c'est inutile, on ne fait pas de la peine à personne. Il y avait une question.
Au sujet de l'Ehagia.
Plus fort.
J'aimerais revenir un petit peu sur ce dont on parlait avant la question du film. Et je reprends le texte de Vayakovel Bakora, de Yasman Amitra. Et je vois peut-être rapport et une analogie avec l'écran de quoi, qui veut dire avec la médecine, l'écran. Ça reprend un peu l'ouverture.
Écoutez, il faudrait qu'on réfléchisse à ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si c'est encore déjà un chidouche, mais ce n'est pas dans le texte. Parce que les deux lycrotes ne font pas partie de la même phrase. Reprenez votre camarade. Shma mina mizvot rikhot kavana. Point. Maïm kiven libo, lycrote. Point. Fin de la phrase. Lycrote, début d'une autre phrase. Il ne s'agit pas de l'icrote. Maintenant, il faut que je vérifie. Il est possible, en enlevant toute la ponctuation, disons, en étant corrigé tava, d'y voir effectivement deux manières de lire. Que le l'icrote de la fin de la première phrase aurait un premier sens, le l'icrote du début de la deuxième phrase aurait un deuxième. C'est possible. C'est possible, mais je ne peux pas vous répondre. Oui, j'entends bien. C'est-à-dire qu'il y aurait deux lectures différentes. La lecture sans lire et la lecture...
Je suis en train de penser en ce moment que ça n'est pas une coïncidence que cette fille d'écrotte la mettrait par rapport à...
Mais où vous voyez que... C'est-à-dire, vous demanderiez... Ah, j'ai compris maintenant, mais là, non, c'est une difficulté entre l'hébreu et l'araméen. C'est-à-dire, vous auriez voulu un licro avec Aleph. Et le licrote. J'ai compris. Et le licrote avec Tav vous renvoie au micré avec He. Oui. Non, mais parce qu'ici c'est en araméen, c'est pas en hébreu.
Ah,
le Tav, oui, le licrote est araméen, n'est pas hébreu. Mais ça fait rien, ça peut encore aller jusque-là.
Ah.
Seulement, vous avez remarqué que dans ma réponse, j'ai pas employé le mot de micré.
Oui.
Sauf, il y a peut-être un cas particulier. Vous allez vérifier vous-même dans le Chumash, dans la réponse d'Isaac à Jacob au moment de la bénédiction. Qui hikra elai elokecha. Lorsque Jacob revient immédiatement après que Isaac ait demandé à Esaü de lui préparer à manger, et alors que Isaac lui demande mais tu as fait vite, alors le verset emploie le mot dans ce sens-là. Ça vous vérifierez dans le verset. Entre Mikré et Mikra. Okay. Top. Alors écoutez, on avance un peu dans la Gemara, et c'est là que nous allons avoir notre deuxième lecture, qui va nous permettre de relire, peut-être déjà aujourd'hui, sinon déjà demain, la proposition. Est-ce que jusque-là tout est clair? Je vous résume en schématisant une minute l'essentiel de la première explication à laquelle nous sommes arrivés. Il s'agit, comme dit Rashi, comme dit Tosfot, de lire sans lire, comme avait dit la Gemara, mais pour se préparer à lire. Et alors, première indication, s'il avait mis la kavana d'avoir à lire autant que la lecture, sa préparation lui tient lieu de lecture. Il a le même mérite, il passe avec les autres, ceux qui liront. Est-ce que c'est clair? Vous voyez qu'on a complètement évacué la hanaha de Rashi, la première proposition de Rashi, que selon la Gemara, la Mishnah avait voulu dire que c'est kavana la tzet. Est-ce que c'est clair?
Vous avez dit que nous dirons
Oui, je vais vous la dire tout à l'heure. Pas la référence, la référence est celle-là, c'est Rabbi Nissim sur cette Mishnah, mais son enseignement. Quelqu'un d'autre avait une question? Oui.
Est-ce que l'Aria, le fait de corriger s'il n'y a pas des fautes, n'implique pas une certaine attention, n'implique pas une certaine réflexion, et en général, c'est là où on croit qu'il y a une faute, et en réalité, ça veut dire beaucoup.
Non, parce que justement, cette attention qui est nécessaire pour corriger empêche l'attention de l'étude. Parce que l'attention porte sur les lettres et pas sur les mots.
C'est l'inverse du français, parce qu'en français, par exemple, quand il y a l'orthographe d'une certaine façon, il nous explique pourquoi il y a ceci et cela.
Pourquoi l'inverse?
En français, ce n'est pas l'inverse. En français, c'est quand on voit l'orthographe que l'on comprend. Il faut comprendre le sens pour pouvoir.
Non, mais si on se dit, par exemple, pourquoi vous faites des fautes d'orthographe?
Oui, non, je comprends. Non, il ne s'agit pas de la même conduite. Lire pour vérifier si chaque lettre est exacte et si c'est bien écrit comme ça doit être écrit. C'est-à-dire, là où il manque une lettre, il faut qu'il manque une lettre. Là où il y en a une de plus, il faut qu'il y en ait une de plus. Comprenez bien une chose. Le Sefer Torah n'est pas exactement écrit comme on le lit. Nous avons la lecture qui s'appelle Halakha de Moshe Mishinaï, telle qu'elle a été transmise à Ezra, et c'est cette lecture qui, à force de loi, jusqu'à l'arrivée du Messie. C'est cette lecture-là qui est le Mikra. Ce qui est écrit supporte 70 lectures différentes. Mais c'est une d'entre elles qui nous est transmise, ce qu'on appelle Halakha. Par exemple, vous avez une Mishnah dans Sanhedrin. Amegale panim batora shelo kahalakha en lo chelek la'olam haba afrapi sheyesh lo torah mitzvot. C'est-à-dire, celui qui dévoile une lecture qui n'est pas selon la halakha n'a pas de part au monde à venir, même s'il a beaucoup de Torah et de mitzvot, et même s'il est très pieux. Mais parce qu'il lit autrement que la règle. Je vous dis très certainement, un de mes maîtres m'avait enseigné il y a longtemps, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un grand gaon qui s'appelait Shushani, Zichrono Livracha, et il nous avait enseigné, quand on est mort, on ne se rappelle plus, mais lui il se rappelle. Mais il nous a enseigné qu'il y a 2 600 000 lectures de base de chaque verset. Je vais vous dire comment. Et puis, ça, c'est les lectures de base. Et chaque jour, dans chaque école différente, il y a les chidushim, il y a les renouvellements de sens. Alors, vous voyez, toutes les lectures que le texte porte, mais il y en a une qui est la halakha. Celle qui nous est transmise par Moïse à travers les juges, les prophètes, les anshim, les sétagadola, et qui est la halakha de notre lecture, depuis le Bayit Sheni jusqu'à le Bayit Shlishi. Parce qu'il y a, comme vous le savez, 4 méthodes de lecture qui sont le Pardes, Pshat, Remez, Drash, Sod. Et il y avait 600 000 Hébreux au pied du Sinaï. 600 000 multipliés par 4, ça fait donc 2 400 000 lectures de base. Mais à chaque jour, ça se renouvelle pour chacun. Alors imaginez, En Heker et l'idolâtre. Il n'y a pas de limite aux lectures possibles de ce qu'il y a d'écrit. Alors vous voyez bien qu'on vérifie ce qu'il y a d'écrit comme c'est écrit. Ça, c'est en préparation au Mikra de la fin d'année. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Ces différentes lectures ne permettent pas une reformulation de la halakha pendant un temps?
Si j'ai bien compris votre question, oui, mais, dans la mesure où le peuple juif unanime accepte la Torah comme sa constitution, alors on peut la formuler. Tant que l'unanimité du peuple juif n'accepte pas la Torah comme sa constitution, on ne peut rien changer.
Attendez,
j'explique ce paradoxe, parce que ça a l'air d'être paradoxe. Vous comprenez? Si le peuple accepte la loi comme souveraine, alors elle dira ce qu'elle a à dire. Tant que le peuple n'accepte pas la loi comme souveraine, elle reste comme elle est. Et c'est dans la société israélienne que ça se joue.
Selon les différentes époques et les différents lieux et les cultures où les juifs sont, il peut y avoir une réforme.
C'est pas non plus exact. Jusqu'au dernier mot. Réforme, non, jamais. Réforme, ça n'existe pas. Reformulation, oui. Mais on ne reformule que pour celui qui demande ce que la loi dit. Pas pour celui qui demande que la loi dise ce qu'il veut qu'il dise, lui. Vous comprenez un petit peu. C'est-à-dire, à l'échelle générale, dans la mesure où il y aurait un jour un vote à la Knesset, la constitution d'Israël, c'est la Torah, tout de suite, le Sanhedrin se réunit. Mais tant qu'il n'y a pas ce vote à la Knesset, le Sanhedrin ne peut pas se réunir. Donc, intérêt d'envoyer des juifs pieux à la Knesset. Pour ça, il faut que l'Aliya reprenne, etc. Bon, ça, c'est dans notre propre. Alors, on va aborder tout de suite la suite de la Gomorrah. Tanou Rabbanan. Et je le remettrai au tableau. Tanou Rabbanan, c'est une Braïta qui est donc introduite par la formule habituelle. Tanou Rabbanan, nos maîtres ont enseigné. Kiryat Shemar Kirtava, Divrei Rabbi. Alors, réfléchissez bien sur les trois premières mots, les deux premiers mots. Kiryat, les trois. Kiryat Shemar Kirtava. La lecture du Shemar doit être comme son écriture. La Chidouche. Divrei Rabbi, ça c'est l'enseignement de Rabbi. Qui est Rabbi? C'est Rabbi Yehuda Kadosh, Rabbi Yehuda Nassi, qui a été celui qui a mis par écrit la Mishnah. C'est clair. Alors, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda. Et voilà l'enseignement de Rabbi Yehuda. dans le cas du Kriyat Shema, la lecture doit être comme l'écriture. Ici, il n'y a pas de différence entre scriptive. On doit lire comme c'est écrit. Rachid. Regardez Rachid tout de suite. Kirtava. Je viens de lire un mot. Enfin, qui sont deux mots. Qui veut lire? Belachon de Kodosh. Quel est le chidouche de Rachid? L'enseignement de Rabbi, nous verrons tout de suite. Ahalacha n'est pas comme lui, mais ça va nous aider à comprendre tout ce qui s'est passé avant. Un deuxième niveau. Rabbi enseigne. En ce qui concerne le Kriyat Shema, la lecture du Shema, du texte, doit être comme l'écriture du texte. Et qu'est-ce que dit Rashi? Ça veut dire en la Shema Kodesh. Et qui peut expliquer ça? Quelle est l'intention de Rashi? Pourquoi il a dit en la Shema Kodesh et pas en hébreu? Ah non, non. C'est pas que t'as vachouri, que t'as vigri. Hein? Ça, c'est autre chose. Bah, page 12. C'est ma chouva. C'est pas du tout ça. Il dit, on doit le lire en lachon à Kodesh. Première difficulté, pourquoi il n'a pas dit en hébreu? Et en hébreu, il ne s'agit pas de la forme des lettres, si c'est le Ktav Ivri ancien ou le Ktav Ashuri. Bon, ça c'est ce qu'a dit la Gemara. Rabbi a dit Kriyat Shema Kirtava. Rashi nous dit en la chambre à côté. Donc, ce que vous voulez expliquer. Oui, mais expliquez-la pour tout le monde. Vous vous parlez à vous-même.
C'est vrai.
Oui, mais alors dites que.
Par exemple, je donne un exemple du schéma, le Aïn et le Dalet.
Par exemple, très bien. Par exemple.
Plus grand.
Par exemple.
Alors c'est ça la chambre à côté.
Très bien.
Si on écrit en hébreu.
Ah non, 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 il ne s'agit pas de la forme des lettres. Non, 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 il ne s'agit pas de la forme des lettres, mais vous avez bien répondu. Ça veut dire, avec le sens de cette langue que nous apprenons l'hébreu, comme elle l'a dans le sens qu'elle a dans la bouche des prophètes. C'est clair? Et vous voyez tout de suite pourquoi la halakha n'est pas comme Rabbi. Parce qu'il nous donne l'idéal d'authenticité maximum. Un hébreu, c'est un hébreu. Alors les hachamim vont... établir, formuler la règle au niveau où les juifs se trouvent. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, Rabbi nous dit, nous devons lire ce texte du Kriyat Shema comme dans le sens qu'il a dans la bouche de Moïse. Ça, c'est la Shana Kodesh. Alors, on va décrypter l'expression. La chose à Kodesh. Le langage, lorsqu'il parle des choses de la sainteté. C'est pas le Lachon à Kadosh. Ce n'est pas la langue sacrée, la langue sainte, comme vous avez dans les traductions. Là, il y aurait le lachon kadosh, l'adjectif. Il y a le lachon hakodesh, la langue de cette chose qu'on appelle sainteté. Lorsque le langage hébreu parle de la sainteté, avec le sens que les mots ont lorsqu'ils traitent de l'être de sainteté. C'est le lachon hakodesh. Alors, puisque nous avons touché ce point, c'est très important, vous comprenez tout de suite qu'il y a une différence avec la même langue, entre le Lachon HaKodesh et le Ivrit de l'Ulpan, le Ivrit des grammaires, des dictionnaires. Ça, c'est l'hébreu comme langue de communication des consciences. Mais le Lachon HaKodesh, c'est l'hébreu comme langue de la révélation. Alors, vous voyez que la règle de Rabbi nous est inaccessible. Ça veut dire qu'on a accompli son devoir que si on a lu ce texte avec le sens de la langue des prophètes. Si quand je dis le mot Shema, j'entends pas « entendre », mais j'entends ce que signifie le shin, le même, le haïn et le haïn grand, dans le sens que cela a dans la langue prophétique. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, avant d'aller plus loin, nous avons déjà la réponse à notre mystère de tout à l'heure. Et qu'est-ce que voulait Rabbi? Rabbi nous disait la halakha ancienne. Jusqu'à lui, c'est comme ça qu'était la halakha. Quand il y a une marloquette, quand il y a une controverse, on fait comme les derniers, mais on sait que c'est le premier qui avait raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est bien clair? Rabbi nous a dit la règle jusqu'à lui. Jusqu'à lui, on était des hébreux du temps de la prophétie. Alors, je télescope un peu l'histoire, mais c'est pour vous donner le schéma. Alors, les hébreux du temps de la prophétie, lorsqu'ils disaient le schéma, devaient le dire pas dans n'importe quel hébreu, pas dans n'importe quelle langue, fût-ce l'hébreu. Ils devaient le dire dans l'hébreu du Lachon HaKodesh. on va aborder un tout autre temps où la halakha va changer parce que la dispersion va commencer. Mais avant d'aborder la Gemara, alors nous avons déjà la réponse à notre préoccupation. Et comme il fallait accomplir la halakha selon Rabbi, Kriyat Shema Kirtava, avant de dire le Kriyat Shema, on se préparait à le dire Kirtava. Donc on était dans la position de celui dont on a parlé tout à l'heure, quelqu'un qui préparait son texte. Parce qu'on va lire, pas comme on lit, on va lire comme c'est écrit. Alors il faut qu'on ait un texte exact. Et avant de dire le Kriyat Shema, tout le monde prenait du temps pour se préparer à la lecture comme l'écriture. Donc c'est bien le cas le plus général. Mais c'est le cas le plus général que Mishnah Rishona, comme on dit en langage talmudique, selon la première lecture de la Mishnah. Dans l'ordre de la halakha ancienne, selon Rabbi, il fallait préparer le texte avant de le lire. Parce que la règle était de lire comme c'est écrit. Alors on vérifiait si le texte était exact et on se préparait à mettre la kavana de lecture selon l'écriture. Et il dit son créatement en hébreu, mais il pense en français. C'est ça, Bechodosh. C'est clair? Alors que Rabbi lui exige l'hébreu penser en hébreu. Quand un français dit Shema, qu'est-ce qu'il entend? Il entend le mot français correspondant dans la signification. C'est clair? Il n'y a qu'un hébreu kabbaliste qui entend dans Shema le sens du Lachon HaKodesh. Alors voilà pourquoi la halakha n'est plus comme Rabbi, alors que c'était la halakha originel, parce que c'est le temps de la dispersion et il est normal que les hachamim élaborent la halakha pour la règle du plus grand nombre. Et vous avez là la tradition pharisienne. Qu'est-ce que la tradition pharisienne? Il faut formuler la Torah pour le peuple, pour la collectivité. La Torah, la religion, comme on dit en français, n'est pas une affaire individuelle. Elle concerne l'histoire d'Israël. Les Sadducéens, eux, penser que la Torah était une affaire individuelle, un culte privé, et que l'histoire, alors l'histoire n'a pas de sens religieux, l'histoire n'a pas de sens métaphysique. Et cette controverse, elle est aujourd'hui très grave dans la société juive. Vous avez ceux qui mettent en question la signification religieuse de l'histoire, ça c'est les Sadducéens, et ceux qui au contraire considèrent que la Torah n'est pas une affaire de culte privé, à la manière d'un Français qui est ou catholique, ou protestant, ou juif, ou israélite, ça c'est son affaire privée, mais que la Torah concerne l'histoire d'Israël. Et vous voyez pourquoi les problèmes sont urgents aujourd'hui, parce que ce qui est en question, c'est, point d'interrogation, la signification des événements de l'histoire juive contemporaine. Le Sadducéen dira, il n'y a même pas de problème, ça n'a pas de sens religieux, la religion c'est individuel. Manger kasher, aller le Shabbat à la synagogue, etc., etc. C'est une religion privée. Ça, c'est le sadducéisme. Tandis que la tradition pharisienne, la Torah concerne l'histoire de la collectivité. Et c'est pourquoi la halakha, selon les pharisiens, ne sera jamais comme la halakha, selon les sadducéens. Vous avez compris Il y a là vraiment un schisme. Et un schisme qui a été historiquement le schisme entre les pharisiens et les sadducéens. N'oublions pas que les sadducéens se sont perdus comme communauté historique, mais la tendance au sadducéisme est permanente, parce que c'est un phénomène sociologique. Et en général, ça touche les intellectuels bourgeois. Voilà, c'est dommage. Et en général, les intellectuels sont bourgeois, parce que quand ils ne le sont pas, il faut qu'ils le disent, alors on les appelle intellectuels de gauche. Machmark, intellectuel, ça veut dire bourgeois. Vous voulez dire ça? Est-ce que c'est clair? Vous voyez pourquoi la halakha est... C'est-à-dire, on va admettre que celui qui dit le chemin en français, il est yotze. Parce que même quand il le dit en hébreu, c'est en français qu'il est. Alors c'est plus joli, ce serait une faute de goût dans une synagogue de dire le chemin en français, parce que si jamais il y a un juif anglais là, il va se sentir pas chez lui. Alors au moins on le dit en hébreu, il y a toute une différence de prononciation. Un prononcera à la galloise et l'autre à la gauloise. Mais ça veut dire que la signification qui est véhiculée par le vocable hébreu peut être celle de la langue du pays où on vit. Voilà ce que veut les chachamim. Et la halakha est comme ça. C'est clair? Alors vous voyez quelle est la portée de l'universel qu'il y a dans la mitzvah du Kriyat Shema. Pendant que le peuple juif dit le Kriyat Shema, ce sont tous les génies culturels à la fois qui disent la création. C'est-à-dire tous les peuples participent à travers la langue de leurs juifs au Kriyat Shema d'Israël, qui est dit en hébreu par Rabbi Yehuda et qui est dit en français, en Bechol Lachon, en toute langue, par les autres Hakam. Est-ce que c'est clair? Oui, quelle était votre question? J'entends pas. Non, non, mais depuis toujours, depuis Moïse, il y a eu un Sanhédrin.
Mais alors,
non, non, il y avait les 70 langues de l'humanité avant même la dispersion. Avant même la dispersion. Et quand le temps de la dispersion des Juifs est arrivé, il fallait donner la halakha pour les Juifs de la dispersion. C'est-à-dire cette halakha, elle est, selon les Hachamim, au temps du Beit Sheni. Au temps du Beit Rishon, elle était selon Rabbi. Parce que le Beit Rishon, c'était avant la dispersion. Oui.
Il s'agit seulement des langues. Mais du Barak Belshonot, je l'ai ramené.
Non, elle est partie comme tabouillot.
Zéo, c'est... הרפורמים והקונסרבטיבים, כל היהדות הזאת, מה הדין פה? אם בכל אופן הגוונה היא שבתוך הגלות, החברה היהודית בכל אופן, אפילו אם...
טוב, למשל, je vais traduire en français. La question qui a été posée, c'est est-ce que le Sanhédrin devait être au courant des langues des autres nations ou aussi de leur culture. Bien entendu, de leur culture. Je vous donne un exemple. La Torah demande qu'on mette des tzitzit aux vêtements. Mais elle ne nous a pas dit quelle sera, comme on dit en français, je ne sais pas, la forme du vêtement, la mode du vêtement. Et la mode du vêtement, elle est prise de la culture du temps. Mais la mitzvah, c'est de mettre des tzitzit. Vous comprenez ?
Oui.